Avis aux mélomanes, aux mordus d'opéra et de musique baroque, le chœur Odyssée célèbre Jean-Baptiste Lully à l'église Saint-Roch de Dieulfi dimanche 2 juillet. C'est un concert exceptionnel autour du maître Florentin qui sera donné ce soir-là par cet ensemble vocal qui réunit 35 choristes amateurs de la Drôme avec des musiciens et des musiciennes spécialistes de la musique ancienne. Pour parler du chœur Odyssée et de ce spectacle musical autour de Lully, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Simon, directeur musical, et Katia Larvego, metteuse en scène et choriste au sein du chœur Odyssée. Merci d'être là aujourd'hui et bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'en ai dit quelques mots, mais est-ce que vous pouvez peut-être commencer par présenter ce chœur Odyssée que vous avez créé, Philippe Simon? Peut-être depuis quand ce chœur existe-t-il et quel est son répertoire?
Alors, j'ai créé le chœur Odyssée, ça remonte à 2005. Et le nom m'est venu très rapidement. Bon, c'est vrai que moi, j'ai été élevé avec mon grand-père grec par ma maman. J'ai été élevé au biberon, à l'Iliade et l'Odyssée. Donc, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Surtout que je me préparais certainement à une aventure, un Odyssée. Bon, vous connaissez le voyage d'Ulysse, c'est une sacrée aventure. Et on le vérifie chaque année, puisque depuis 2005... Eh bien, le chœur Odyssée s'est renouvelé. Beaucoup de choristes y sont passés, drômois, de différents ensembles, des choristes souvent très expérimentés qui ont chanté un peu dans d'autres ensembles aussi, qui se sont succédés maintenant pour interpréter chaque année des programmes assez originaux, puisque moi, étant chef de chœur et dirigeant beaucoup de chœurs, j'avais choisi cette équipe pour faire les projets, vraiment des créations originales, comme celles qu'on va donner. Donc on a beaucoup travaillé sur la musique ancienne, la musique médiévale, qu'on a donné plusieurs fois des spectacles autour de la musique médiévale, la musique renaissance, il y a des magnifiques polyphonies, bon, c'est le trésor de l'art choral, la renaissance. Et ensuite, on s'est attaqué au baroque. Ça devait être en 2018, j'ai eu l'idée, la première fois, de concevoir un opéra choral. Voilà, c'est un terme que j'ai inventé. Pourquoi opéra choral? Moi, je suis fan d'opéra. L'opéra raconte une histoire avec les voix, une histoire chantée. Hein, c'est une pièce de théâtre chantée. Mais mon instrument étant le chœur, étant les choristes, j'ai essayé de créer une version courte des opéras qui me parlaient particulièrement, où le chœur aurait le rôle principal. Un peu comme dans la tragédie grecque, on y revient encore, où le choriffé et le chœur... est toujours là présent pour se lamenter, pour se réjouir, pour présenter ci ou ça, tel événement. Voilà, donc le chœur Odyssée avait sa place dans cet opéra choral où il y avait quelques personnages intervenant de façon assez courte, puisque mon but n'était pas de faire venir des pointures du chant lyrique, mais de monter une version courte avec beaucoup de chœur et d'orchestre, et puis quelques personnages. Donc on en est venu, le premier que j'ai conçu, c'était avec Monteverdi, et ça s'appelait Un Orfeo imaginaire. Voilà, c'était en 2018. Et puis, bon, après, ma foi, il y a eu l'épisode du Covid qu'on a tous traversé. On a heureusement réussi à continuer à chanter et la musique nous a beaucoup porté à travers ça. On a réussi à continuer comme on pouvait à l'époque. C'était un peu une traversée du désert, mais on a continué, on ne s'est pas arrêté. Et au sortir du Covid, j'ai eu cette idée d'avoir envie de quelque chose de joyeux pour sortir de... À l'époque du Covid, bon, on était un peu... On planait dans nos musiques de la Renaissance. Et là, je me suis dit, non, maintenant, il nous faut un spectacle joyeux qui nous permette de sortir de la tristesse du confinement et tout ça. Et là, on a fait ce projet qui s'appelait Les Reines de Purcell, donc autour de la musique du brillant Purcell, donc tout en anglais. Et là, les choristes ont découvert, pour la plupart, il y avait une équipe un peu nouvelle dans le chœur, ils ont découvert qu'ils étaient capables de chanter par cœur, même en anglais, pour se prêter à une mise en scène. Et là, je vais laisser parole à Katia Larvego, à qui j'ai fait appel pour justement diriger une mise en scène vivante en utilisant la spontanéité des choristes, et pas de façon trop directive, justement. On a trouvé, avec Katia, une façon de stimuler la créativité du groupe, une créativité collective, avec beaucoup de spontanéité. Alors, je te laisse la parole, Katia.
Oui, eh bien, voilà, pour les Reines de Purcell, l'idée était plutôt une mise en couleur et une mise en mouvement des choristes, qui constituaient, en fait, les choristes constituaient le décor. C'est-à-dire que c'est par leur mouvement, par les couleurs qu'ils portaient, qu'on a créé des tableaux vivants avec les 35 choristes. Et à la fois, c'est une mise en scène légère, puisque ça reposait vraiment sur le groupe. Et en même temps, ce que je redis encore aujourd'hui quand on travaille avec notre nouveau projet, c'est que chaque individu est extrêmement important, mais chaque individu doit avoir conscience du groupe pendant toute la représentation.
Voilà. Ces concerts qui relèvent autant de l'interprétation musicale que du spectacle musical, c'est vraiment une particularité de ce que vous voulez, du travail que vous voulez mener tous les deux avec le chœur Odyssée.
Ben, c'était une collaboration la première fois, donc c'était en 2021,
oui.
Pour les Reines de Purcell, et puis c'est une collaboration qui a été très concluante, dans laquelle on a senti une très bonne collaboration et complémentarité. Et donc on remet ça cette année avec un peu d'autres concepts. Mais l'idée, c'est... Voilà, on travaille avec des personnes qui sont amateurs quand même aussi, qui n'ont pas trop l'habitude de bouger, etc. Mais il y a un effet de groupe aussi, qui fait qu'on peut arriver à des très belles choses et des très beaux moments comme ça de
grâce.
Comment?
De grâce,
oui.
Oui. Moi, ce qui m'a scotché vraiment quand on a fait ces Reines de Purcell, c'est de voir le plaisir qu'ont pris nos choristes, qui était vraiment flagrant, quoi. Le plaisir de se sentir capable de chanter libre, sans partition, de danser, de bouger. Et Katia a réussi à stimuler la créativité de chacun, de la spontanéité. Et j'ai senti vraiment beaucoup de plaisir. Je me suis dit, quand on a fini ce projet, là, on a trouvé un moule, on a trouvé un concept. Je veux refaire un nouveau projet. Et alors là, parce qu'en plus, il n'y avait pas que le plaisir des choristes, il y a eu la surprise et l'enthousiasme du public qui nous a découvert très vivant, un spectacle très vivant. Et puis moi, de mon côté, ça venait rejoindre aussi mon plaisir de concevoir un projet où on puisse aujourd'hui, à l'heure actuelle, goûter ces merveilles de musique baroque qui sont quand même, qu'on a quand même très peu de chances de trouver par soi-même. Pourquoi ? Parce que ces opéras durent chacun 2h30 à peu près, et que il faut aller fouiller par-ci par-là pour trouver ces moments de beauté et des moments très puissants à travers beaucoup de solos qui durent souvent très longtemps, avec beaucoup de reprises qui sont parfois, je dirais, difficiles à écouter aujourd'hui parce que empreintes d'un style ancien. Et voilà, donc c'était mon plaisir de trouver les moments qu'on puisse vraiment relier ensemble. Alors voilà l'idée. Là, je suis parti sur mon désir, du coup, avec tout ça, c'était de faire un projet en français cette fois-ci. Faire enfin, après Purcell en anglais, après Monteverdi, qu'on a célébré plusieurs fois en italien. Voilà, j'avais le désir de faire un projet en français, cette belle langue que beaucoup disent difficile à chanter et que je voulais vraiment à qui je voulais vraiment faire honneur.
Et c'est donc vers Jean-Baptiste Lully que vous êtes tourné, non pas donc à partir d'un de ses opéras, mais à partir d'un... C'est une création originale que vous avez fabriquée à partir de trois opéras, si je ne me trompe pas,
oui,
de Lully.
À partir de trois opéras, effectivement. On pourrait me dire, mais pourquoi il en a fait chaque année un différent? Il en a fait au moins une quinzaine. Pourquoi en refaire un autre? Eh bien, justement, comme je vous disais, pour d'abord... utiliser au maximum les possibilités du chœur. Donc j'ai pris tous les passages de chœur les plus étonnants, les plus magnifiques que j'ai trouvés dans les opéras. Et j'ai retenu justement la plus grosse partie, je dirais, de notre création, Les Captifs, c'est sur Amadis, l'opéra Amadis. Et bon, dans beaucoup de ces opéras, on trouve un peu les mêmes thèmes, la magie, le surnaturel qui s'affronte au naturel, l'amour, la haine, la guerre, la paix, la liberté, la captivité. Il y a un peu tout ça dans beaucoup de ces opéras. Donc c'était, finalement, ça s'est mis ensemble à force de persévérance. J'ai fini par trouver le fil qui est venu entre Amadis et Roland, qui avait la particularité dans tous les opéras de Lully d'être plutôt basé sur des légendes celtiques plutôt que sur la mythologie grecque. Et donc, ils avaient ça en commun. Donc, les grands mages, les sorciers qui interviennent. Et je cherchais le lien entre les deux, le petit point de bascule. Je l'ai trouvé dans un opéra très fantasque qui s'appelle Isis, où il y a des choses étonnantes. Et vous verrez, si vous venez nous écouter, à quel point la langue de Lully n'a pas pris une ride, que le texte est très actuel, très vivant, et s'enchaîne finalement sur une histoire toujours aussi actuelle.
Vous nous avez proposé de diffuser un extrait de sonore de la première rencontre entre le chœur, donc le chœur Odyssée avec l'orchestre autour de spectacle. On peut l'écouter, on peut écouter ce court enregistrement, et puis donc c'est un extrait du spectacle dont vous parliez, Les Captifs, un songe de Lully. Ça a été enregistré, je crois, mercredi dernier.
Voilà, c'était une répétition, la première avec l'orchestre, et c'est juste la partie finale des Captifs.
Bon, ben on écoute ça et puis ouais, on en discute juste après. Nous sommes toujours avec Philippe Simon et Katia Lavego pour parler du chœur Odyssée, de ce spectacle Les Captifs qui sera donné à l'église, en l'église Saint-Roch de Dieulfi dimanche 2 juillet. Alors, ce qu'on vient d'entendre, du coup, c'est une partie d'un opéra que vous avez récupéré du coup pour cette création
ou, Oui, tout à fait. La d'accord. musique est 100% Lully. Hein. Je n'ai pas changé une seule note. C'est un extrait, alors c'est notre finale des Captifs, en fait, que j'ai pris sur le prologue de l'opéra Roland. Voilà, que Roland, c'est le fameux Orlando Furioso, qui est un thème qui a inspiré de nombreux compositeurs. Et c'est sur le prologue qui célébrait le Roi Soleil. Et voilà, et un petit mot justement sur Lully quand même, parce que c'est un compositeur étonnant. Ce sont des tout le long du spectacle, ce sont des perles aussi bien chorales qu'instrumentales.
Comment est-ce qu'elle se caractérise, peut-être en quelques mots, cette musique de Lully?
La musique de Lully nous fait penser presque à son à celui qui les a composés, qui était un personnage qu'on connaît mal aujourd'hui parce qu'on l'associe un petit peu au faste de la cour de Versailles, du roi Soleil. Il a même parfois été un petit peu décrié parce qu'il a exercé une mainmise. Il était un favori de Louis XIV, il était juste l'aîné de quelques années de Louis XIV, et il avait une certaine emprise. Au niveau de la musique, il avait la main mise sur. Donc, il a certainement fait de l'ombre à beaucoup d'autres compositeurs français. Mais c'était un type absolument génial et qui était un petit peu loin de cette image ampoulée qu'on peut lui donner. C'était un personnage fantasque, capricieux, débauché, un peu comme Molière. D'ailleurs, Molière et lui ont été de grands copains pendant de nombreuses années. Et ils ont fait plusieurs comédies-ballets ensemble, dont on va donner un extrait en première partie, avant les captifs. On a choisi de faire un petit extrait des Amants magnifiques. C'est une comédie-ballet qu'on n'entend pas souvent. D'accord. Je sais qu'il y a eu, l'année dernière, on a donné à Grignan, il y avait les Fâcheux qui ont été représentés au festival de Grignan. Et là, c'est les Amants magnifiques, c'est une autre comédie-ballet. Et on a choisi un petit extrait qui est une pastorale très drôle, du Molière, et avec la musique de Lully qui est toujours, puisque vous me demandiez, c'est une musique qui est toujours très pétillante, pleine de contrastes. On est toujours étonné quand on va fouiller dans ces musiques à quel point ça peut être contrasté. Il est capable des choses les plus mystérieuses, les plus endiablées, les plus dansantes ou les plus rayonnantes. C'est ça qui lui est particulier, je pense.
Pour en dire un peu plus sur ces premières parties, cette ouverture du spectacle, du concert du dimanche 2 juillet, du coup, ce sera le chœur Odyssée, il est séparé en deux groupes. Et donc, ce sera ces deux groupes qui vont successivement commencer cette soirée avant de se réunir pour le concert en tant que tel.
Pour les captifs,
oui.
Les captifs, donc c'est cette création sur les trois opéras qui sera donnée en deuxième partie, qui réunit les deux chœurs. Et ça tombe bien que j'ai deux chœurs à ce moment-là, parce que justement dans cet opéra, et c'est un peu sur ce que tu as là-dessus que tu as travaillé, Katia, il y a les humains et les démons, les captifs, les geôliers. Enfin bon, donc c'était bien d'avoir deux groupes. Mais dans la première partie, on va avoir chacun des deux groupes qui va présenter 15 minutes de programme séparément, donc les Amants magnifiques pour l'un des deux groupes, et juste après, trois extraits des grands motets de Lully. Alors, incroyable quand même qu'un personnage aussi fantasque et débauché que fut Lully, qui a été souvent menacé de se faire écarter de la cour à cause de ses libertinages, il a composé des musiques sacrées, mais d'une beauté, d'une profondeur bouleversante, quoi. Donc on a choisi trois perles de ces grands motets, le De Profundis, Lacrimosa et Pie Jesu, qui sont des extraits du Dies Irae de Lully, et là qui sera présenté par le deuxième des deux groupes.
D'accord. Donc un groupe qui est situé plutôt à Chabeuil, et l'autre plutôt en Drôme Provençal, à Le Poët-Laval.
C'est ça, entre Poët-Laval et Chabeuil.
D'accord. Peut-être Katia Larvego, vous êtes metteuse en scène sur ce spectacle, mais également choriste. Est-ce que chanter en français cette fois-ci sur la musique et les compositions de Lully, est-ce que c'est plus facile ou finalement plus difficile, vous diriez, de chanter en français ?
Non, en soi, c'est intéressant parce qu'on comprend vraiment ce qu'on dit, même si en anglais on comprend. On n'est pas dans le même contact avec la langue. Donc c'est intéressant. Après, c'est une langue difficile à chanter et difficile à faire comprendre. Et l'enjeu de faire comprendre est évidemment plus grand puisqu'on chante en France. Donc voilà, il y a tout un travail qu'on fait en répétition pour que ce soit compréhensible. Après, l'acoustique des églises n'est pas toujours très porteuse pour la compréhension du texte.
C'est un spectacle que vous souhaitez aussi tous les deux tout public, enfin oui. accessible en tout cas. Le français en fait partie du coup de cette accessibilité, tout comme la musique de Lully qui est, comme vous le disiez, festive. Pétillante et
oui.
festive.
Oui, 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 tout à fait. Ah oui, on recherche vraiment cette... c'est ça qu'on a voulu, faire un spectacle tout public, parce qu'en plus, d'abord, le français dont Katia parlait, c'est... moi, j'ai, sur cette langue, j'ai fait le choix de le prononcer de façon actuelle, le français d'aujourd'hui. C'est un choix que beaucoup ne font pas, puisque souvent, la musique du XVIIe siècle, le baroque français, est souvent interprétée en roulant les airs, et même avec des rimes qui sont... associé à l'époque. Alors moi, bon, c'est vrai que j'ai fait ce choix parce que quand j'étais gamin, que j'allais à la Comédie Française, j'ai vibré à cette belle langue française qui n'était pas du tout déformée par aucun accent. J'ai entendu les plus grands acteurs dire Molière, Racine et Corneille avec un français très authentique et actuel. Et donc je tenais à défendre ça justement pour ce côté... spectacle tout public, faire comprendre que c'est une musique qui pour moi est magnifique, ce sont des chefs-d'œuvre qui sont toujours aussi actuels, qu'on peut écouter aujourd'hui, et il n'y a pas de raison de les ranger dans une case, un tiroir de musique ancienne. Mmh. Et en plus de ça, pour le côté tout public, on a la chance d'avoir avec nous la régie Onde et Compagnie. Alors notre régie Lumière, ils sont extraordinaires, ils ont une inventivité et des ressources. Ils sont presque une dizaine à travailler avec nous sur le livret, sur les indications scéniques que leur a donné Katia. Et ils ont déjà plein d'idées. Lors de notre répétition, justement, dont on a entendu un extrait, eh ben, ils étaient déjà à l'œuvre pour tester des effets. Donc c'est un spectacle vraiment son et lumière. Et on a pu essayer justement des dispositifs que Katia avait imaginé, où il y a un moment un espèce de rideau qui va être de temps en temps transparent, de temps en temps opaque, pour figurer une prison qui va...
Oui, on a travaillé surtout sur les espaces. Et ces espaces sont sculptés grâce à la lumière.
Donc une création lumière originale. Et est-ce qu'on peut, peut-être on peut s'attendre du coup à... Enfin, peut-être si vous pouvez nous parler un petit peu plus des décors ou des costumes qui ont été... Ils ont été fabriqués aussi pour ce spectacle.
Alors, il y a donc principalement deux groupes, en fait trois entités. Il y a donc les humains, les démons et les parcs. Il y a trois parcs qui interviennent, donc des demi-dieux... Et donc, on a travaillé sur les humains, on a travaillé sur les humains pauvres, les humains comme le sont la plupart des humains sur la Terre, d'ailleurs. Donc, on a travaillé beaucoup avec des matériaux très simples, de la jute, des sacs de pommes de terre, etc. Donc, ça, c'est un groupe comme ça qui a une certaine homogénéité, tout en étant tous très différents. Et là, on a travaillé ensemble sur la confection de costumes très simples, dans des sacs pommes de terre, comme je disais. On a pu récupérer aussi certains costumes, etc. Pour les démons, il y avait juste des indications, une indication de couleur. Et on cherche dans ce qu'on a, dans ce qu'on les uns les autres, etc. Mais là, c'est vraiment un impact de couleur qui était important. Puis on a fait les trois costumes des parcs. Donc c'est vrai que l'aspect couleur, de nouveau... avec moins de variété, mais à beaucoup d'importance. Et où le groupe fait en quelque sorte le décor. Après, on a travaillé avec un tulle, un très grand tulle. Et avec un tulle, on peut créer, donc, comme je vous disais, avec la lumière, on peut créer des espaces différents. Comme on n'est jamais rarement dans des théâtres, enfin là, on va l'être. Cet automne, ce qui est exceptionnel, mais dans des églises où il n'y a pas du tout d'infrastructure théâtrale, donc on a toute la structure à créer nous-mêmes, donc qui se crée avec les éclairages, etc.
Avec les marches, à Chabeuil par exemple, il y a un grand escalier avec des marches, donc voilà, on utilise les lieux et la magie des lieux le mieux possible, mais l'acoustique n'est pas forcément... toujours commode, donc il faut d'autant plus articuler. Bon, ça a été tout le travail que les choristes mènent depuis le mois de novembre pour arriver à porter le message.
Peut-être un mot sur les musiciens et musiciennes qui accompagneront donc ces choristes, notamment à Dieulefi le dimanche 2 juillet à l'église Saint-Roch. Ce sont des musiciens et musiciennes qui ont l'habitude de jouer avec un chœur.
Je pense, oui. C'est certainement parmi les meilleurs musiciens de la région. Et ils ont, pour la plupart, l'habitude d'accompagner des chœurs. Donc ça me touche beaucoup parce que je vois qu'ils me parlent un petit peu de ce qu'ils ont fait avec d'autres chefs de chœur, d'autres groupes. Et je vois que ce désir de s'impliquer dans la vie chorale, ça me touche. Il y en a certains même qui sont eux-mêmes chefs d'orchestre, qui sont à la fois, par exemple, violonistes, chefs d'orchestre. On a notre premier hautbois que vous avez entendu tout à l'heure dans notre extrait sonore. Il y avait un duo de hautbois, Jean-Pierre Arnaud, qui a été longtemps cor anglais solo à l'Opéra de Paris et au premier hautbois au Capitole de Toulouse et qui a décidé de retrouver sa campagne et de se relocaliser et de quitter un peu le côté fonctionnaire de la musique, comme il me dit, en rigolant, que je comprends très bien parce que moi j'ai été souvent autrefois dans ce milieu de musique professionnelle, mais plutôt dans les styles, et j'ai beaucoup travaillé moi dans le jazz, et je sais qu'on peut au bout d'un moment se lasser de cet esprit professionnel un peu blasé. Donc voilà, j'ai Jean-Pierre Arnaud, Céline Raymond, cor anglais et hautbois, qui au Conservatoire de Valence. Au Conservatoire de Valence, on a Gauthier Lodéon, qui joue du violon alto, professeur aussi, Loïc Maître, qui joue du violon et de l'alto, et Catherine Leuchter, qui est polyinstrumentiste, jouant de la viole de gambe et des flûtes. Et moi-même, je joue aussi de la harpe baroque, un instrument magnifique qui permet de jouer toutes ces merveilles. Voilà. Et puis nous avons aussi Marine Bellen, qui est nouvellement arrivée dans la Drôme, chanteuse soliste, qui a chanté avec pas mal d'ensembles et qui est vraiment, elle aussi, très habituée à chanter de la musique baroque.
Peut-être on peut dire un mot sur la représentation. Donc il y a ce concert à Dieulefi, donc le dimanche 2 juillet. La veille, ce sera à Chabeuil. Dans une église aussi, du coup. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues sur le territoire, notamment ?
Alors, oui, pour l'instant, on a un grand plaisir de pouvoir présenter notre projet au Théâtre de la Ville de Valence à l'automne. Donc, mais ce sera un petit peu plus loin. Donc, laisser mûrir notre projet pendant l'été, pour le reprendre après l'été, on le donnera, ce sera le 8 octobre, un des premiers spectacles de la nouvelle saison du Théâtre de la Ville de Valence.
Ben merci beaucoup Philippe Simon et Katia Larvego d'être venus parler de ce spectacle au micro de Radiola.
Merci à vous.
Merci.
Je rappelle que ce spectacle musical, Les Captifs, un songe de Lully, sera donné le 2 juillet à 20h30 dans l'enceinte de l'église Saint-Roch de
Dieulefi. Non, alors c'est à 18h.
À 18h.
Parce que c'est le dimanche, donc on a préféré, pour les gens qui travaillent le lendemain, présenter nos spectacles à 18h pour le dimanche soir.
Très bien. Voilà. Merci encore.
Merci.
Merci.
On se quitte avec Jean-Baptiste Lully et sa marche pour la cérémonie des Turcs, peut-être son œuvre la plus connue, et une version tirée de la bande originale du film Tous les matins du monde d'Alain Corneau, sorti en 1991. Belle écoute.